parce qu'ils sont au niveau de la vérité comme vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais celui qui a pour charge la réalité, alors a un, je cherche le mot en français, un sens, à l'intuition, mais c'est le roi Hakodesh, c'est pas subjectif, à l'intuition de par où, enfin je vais employer un mot dévitalisé qui s'en prend en français de notre temps, par où passe le sens de l'histoire. Bon, ça veut rien dire, mais c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, ailleurs, la discussion est académique. Au niveau académique, dans le sens noble, alors il y a équivalence de vérité. Comment ? À travers l'équation de chaque mida particulière, de chaque modalité d'être particulière. Il n'y a pas qu'une seule manière d'être, en tant qu'individu, Israël. Il y avait 12 tribus, qui sont 13. Okay, et chaque tribu est l'expression d'une des midot. Donc il y a une Torah pour chacune de ces midot, une halakha pour chacune de ces midot. Voilà donc un autre principe. Pas seulement en quel temps sommes-nous, mais comment sont les juifs de ce temps. Vous voyez à quel point il est extrêmement difficile aujourd'hui. Nous sommes en stade ultime de dispersion, et d'avoir une règle unanime. Vous comprenez pourquoi? Et je pense que c'est caractéristique particulière de la société juive, de la société d'Israël, qui a pour vocation que chaque individu soit une personne. Donc, à la limite, pour chaque personne, il devrait y avoir un visage de la halakha, dans les niveaux de nuance. Est-ce que c'est clair? Vous voyez pourquoi le carcan, si j'ose dire, pourquoi ça devient un carcan de ce que serait, entre guillemets, une orthodoxie disciplinaire d'exactement la même règle pour tous exactement, et déjà en dehors des perspectives de la tradition juive comme tradition. Rien à voir avec le libéralisme, hein, faites bien attention. Vous comprenez le problème. Ça, on apprend à propos d'une paracha très importante, qui est la paracha de Matot. Dans la paracha de Matot, la première paracha, il y a les prescriptions concernant l'annulation des vœux. Okay. Or, cette mitzvah est transmise en particulier à travers les chefs de tribu, Rachet Amatot. Et l'explication est que, pour savoir si c'est le cas de lever un vœu ou pas, il faut une connaissance concrète de la personne, de celui qui a fait ce vœu. Vous voyez ? Ça passe par les chefs de tribu. C'est une indication qui est valable pour toutes les mitzvot, mais elle est mise en évidence ici. C'est-à-dire, chaque communauté a une manière d'être homme, donc une manière d'être juif. Et par conséquent, ce qui est un vœu qu'on peut lever dans une certaine communauté ne sera pas un vœu à lever dans une autre et inverse. Il faut une connaissance concrète de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à la limite, c'est vrai pour tout enseignant. C'est vrai pour tout enseignant. Le Maharal dit dès le début du Derech Haïm, dans l'enseignement de son commentaire sur Pirkei Avot, à la limite, il y a un seul élève pour un seul maître, un seul maître pour un seul élève, et il explique sur la phrase Moshe Kibel Torah Misinai, Un Sara Li Yoshua.
C'est très moderne.
Pardon ? Ben, je suis très content pour les modernes, mais c'est pas moi. Non, non, c'est très ancien, ça.
Très ancien.
Maintenant,
enfin,
on essaie d'aller dans ce sens-là, mais c'est très difficile.
Oui. C'est vrai, mais sachez que ça a été le, et c'est encore le principe de l'éducation traditionnelle. Par exemple, je vous donnerai un exemple. Je crois que le domaine où c'est le plus important, c'est le domaine de l'enseignement moral. Et dans une école juive traditionnelle, il n'y a pas de cours de morale en public. Il y a, si vous voulez, des torahot moussaf, il y a des exhortations morales, mais qui restent toujours dans un niveau de généralité le plus grand. Mais l'éducation morale concrète ne se fait que, c'est-à-dire en français, oui, que, bon, vous avez compris. En dialogue particulier, tout simplement parce que ce qui est bénéfique pour l'un risque d'être catastrophique pour l'autre qui est à côté. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que les hommes, ont, surtout ceux qui ont besoin d'un enseignement de morale pratique, ont une tendance à individualiser, particulariser, personnaliser ce qu'ils entendent. Et parfois, ça peut être extrêmement catastrophique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le domaine, en tout cas, où cela est le plus strict. Par exemple, le fait que nous ayons à suivre aussi nombreux un raisonnement talmudique, c'est éminemment exceptionnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, en fait, je suis à peu près dans la position, celui qui serait là, de quelqu'un qui joue aux échecs avec autant d'échiquiers que vous êtes multiplié par 13, d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle, en général, je suis obligé de demander aux élèves d'une classe de ne pas changer de place. Parce que ça me complique terriblement la relation. Parce que je ne peux me rappeler qui a dit quoi que si c'est à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Alors en tout cas...
Une remarque sur cette intervention de la révolutionnarité de cette chose ancienne. C'est que un bonhomme qui allait être publié par les soi-disant révolutionnaires en 89, André Chénier, disait sur des pensées nouveaux faisant des vers antiques. Eux, ils n'étaient pas capables.
C'est juste. C'était... comment il s'appelait ce poème déjà? Myrto, la jeune Tarantine. Oui, c'est juste. Okay.
La réalité n'est pas du tout la réalité.
Plus fort, j'entends pas.
La réalité n'est pas tout à fait la réalité, n'est pas la transcendance de la réalité. Est-ce que la réalité comprendrait la vie réelle avec ses responsabilités matérielles? Et est-ce que la réalité
Écoutez, ce que vous dites est exact, mais pas assez précis peut-être. Je dirais peut-être sous cette forme par rapport à notre sujet. C'est que la vérité, c'est Torah Ahat. C'est le niveau. Non, mais j'explique. C'est le niveau de la plus grande généralité de vérité. Alors que la réalité est atomisée, la vérité est au niveau individu. Vous comprenez? Par rapport à la réalité, nous sommes jamais au même niveau. Tandis qu'au niveau, le mot niveau est trop employé, mais au niveau de la vérité, alors il y a équivalence. On va dire, la vérité est d'emblée abstraite. Elle est événementielle, elle est ponctuelle, et en chaos. Par conséquent, traiter de halakha au niveau de la vérité, traiter de halakha l'emaase au niveau de la réalité, implique d'autres compétences. Est-ce que c'est clair? Celui qui est compétent au niveau de la halakha théorique n'est pas forcément compétent au niveau de la halakha à appliquer. Inversement, l'inverse n'est pas vrai. Celui qui doit être compétent au niveau de la halakha, les maasés, doit être compétent au niveau de la halakha théorique. Vous comprenez? Les grands étaient comme ça. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait discussion entre Hillel et Shammai, Hillel savait en quoi Shammai avait raison. Shammai savait en quoi Hillel avait raison. Chez les petits, ça commence à aller mal. Bet Hillel et Bet Shammai, Zekvar Machloke. Vous comprenez? C'est-à-dire que les petits n'arrivent plus à se rendre compte en quoi l'autre a raison d'avoir soi-disant tort par rapport... Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair? Alors, distinguons bien ces deux niveaux. La vérité, Elou ve'elou divrei Elokim chayim. La réalité, ploni amarze halakha keman. Bon, j'ai parlé en hébreu, vous avez compris les gestes. Oui.
C'est pour cela que des platoniciens comme Vladimir Yankelevitch prétendent et écrivent. Ils disent la vérité des bousus. Ce n'est pas nous qui ne savons pas ce que nous voulons, c'est la vérité qui est décousue, ce sont des vérités qui sont sporadiques et incompatibles.
Ah, ça c'est grec.
Oui, je sais, c'est Platon,
Vous êtes sûr
c'est Yankelevitch, oui. J'ai lu.
Non, mais vous êtes sûr qu'on peut dire Yankelevitch qu'il est platonicien?
Oui, je pense. Enfin, cette phrase-là...
Oui. C'est un ridouche, en tout cas, je connais bien, j'aime bien...
Moi aussi, j'aime bien, mais cette phrase-là...
Je vais vous citer un midrash très important. D'ailleurs, il existe un texte que j'avais fait il y a 30 ans là-dessus. Je veux dire lequel. C'est rare, ces textes-là. Alors, si ça vous intéresse une fois, on pourra vous faire des photocopies, puis ce texte existe. sur le midrash de Emet Vetzedek Nipgashu, la dimension du temps, vous vous rappelez de cela?
Le sens de la durée sur le midrash.
Zéou, le sens de la durée. Zéou. Et alors, vous avez vu que c'est la mémoire juive. Mais je vais vous citer le thème de ce midrash, qui porte exactement sur le problème que vous avez posé. C'est dans le Midrash Rabbah sur le chapitre 28, le verset 28 du premier chapitre de la Torah. Dans le Midrash au nom de Rabbi Simon, le Midrash dit ceci. Quand le projet de la création de l'homme est apparu dans la volonté de Dieu, quand Dieu a voulu créer l'homme, les anges se sont séparés en kitot, en groupes qui contestaient entre eux. Certains disaient qu'ils le créaient, certains disaient qu'ils ne le créent pas. Vous connaissez ce midrash. Alors, quelles sont ces quatre sortes d'anges? D'après un verset, je ne fais pas le mâchemar des versets, ça va nous prendre trop de temps. D'après un verset qui se trouve dans un psaume, mais éclairé par un autre verset du prophète du livre de Daniel. Il dit « Tzedek ve'emet nivgashu, chesed ve'emet nashaku ». Voilà ce que dit le verset. « Chesed ve'emet nivgashu, tzedek, la justice, et Emet, la charité, se sont heurtés. La vérité, se sont heurtés.
C'est pas Mishpat.
C'est pas Mishpat. Comment j'ai dit le verset?
C'est
écrit Emet. C'est écrit Emet Gachou. C'est écrit Shalom. C'est écrit Shalom, Nachal. Et la charité et la paix. Littéralement, on pourrait dire se sont embrassés, mais c'est pas ça. Étaient en combat. Et Neshika, ça veut dire un baiser, mais Neshek, ça veut dire la mitraillette. D'ailleurs, il y a quelque chose qui relie. Les... Oui. Ça veut dire qu'au moment, voilà comment le Midrash utilise ce verset, au moment où Dieu a projeté les créatures, les valeurs absolues sont entrées en contestation. Les unes disaient qu'il le crée, les autres disaient qu'il ne le crée pas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a laissés discuter entre eux, il n'y avait pas de solution. Alors il a pris la vérité et il l'a jetée à terre. Vatashlech Emet Artsa. Alors les anges se sont révoltés. Comment? Ce qui fait que toute valeur est une valeur, la vérité, tu l'as jetée à terre. Et alors Dieu a dit la suite du verset des psaumes, Emet Meeret Tzmach. La vérité germera de la terre. Et quel est le thème de ce village, entre quoi dans tous les détails? Ça veut dire, le projet de l'identité de l'homme est tellement contradictoire en lui-même que les absolus sont en contestation éternelle. L'homme, et ça c'est un mot de Yankelevitch, l'homme est un impossible nécessaire. Impossible, ça veut dire, c'est un monstre philosophique. Pour la pensée philosophique, c'est un monstre. Parce que l'homme est le lieu de toutes les contradictions. C'est clair. Et pourtant, il est nécessaire, il existe. Donc c'est un mystère philosophique. Comment l'homme peut-il exister? Et alors, les athlètes. Et on comprend bien dans le Midrash. C'est pour la même raison que ceux qui étaient pour étaient pour, ceux qui étaient contre étaient contre. Par exemple, la charité dit qu'il le crée. Parce qu'il est capable de charité. La paix dit qu'il ne le crée pas. Parce qu'il n'est que guerre. Je prends ces deux exemples-là. Mais c'est pour la même raison que l'un dit oui, l'autre dit non. Parce qu'il va s'agir d'un être libre. Et c'est parce qu'il est libre que l'homme est capable de charité. Mais c'est parce qu'il est libre qu'il est capable de querelle. Vous comprenez? C'est-à-dire, par rapport à l'identité des absolus, les anges, l'homme apparaît comme un existant impossible. Il est contradictoire avec la vérité. Alors, pour qu'il puisse y avoir, dans une élection, une voix de plus. Alors Dieu a dafka fait taire la vérité. Il y a toute une série de commentaires pourquoi c'est pas une autre valeur qu'il a fait taire, on aurait eu encore 2 contre 1, ils étaient 2 contre 2. Hein? Il dit non, c'est dafka la vérité qu'il faut faire taire. C'est très important parce que si on interroge la vérité, est-ce que l'homme mérite d'exister jusqu'à la fin des temps, il dira non. Il n'y a qu'à lire les journaux, tous les jours on lit ce midrash. On nous raconte comment l'homme satisfait ou viole ces valeurs-là. C'est ça la grande gazette de l'histoire humaine. Okay? Une minute, j'ai pas fini. Et alors, ça veut dire que Dieu n'a pu créer l'homme que parce qu'il ne veut pas entendre ce que la vérité a à dire sur l'homme. Un pari que Dieu a fait pour l'homme. Ce n'est qu'à la fin des temps, lorsque la vérité pourra dire oui, l'homme peut exister, que Dieu acceptera d'entendre la vérité. Vous comprenez le problème? C'est pourquoi le verset dit « Eret emet, mais eret titzmach ». La vérité germe lentement à travers l'histoire de la terre jusqu'à ce qu'elle puisse dire « Oui, crée-le, il a été déjà créé. Okay » Alors voilà, le chidouche, c'est pas de n'importe quelle terre. « Eret, c'est Eret. Emet, mais Eret titzmach. » Mais, minute, quelle est la force du Midrash? C'est ce qui explique Naase Adam Betsalvenu. Le Midrash dit Naasa Adam Betsalvenu. Dieu parle aux anges pendant qu'ils discutent. Il dit, bon, on discutait toujours. Déjà, l'homme a été fait. Naasa. Vous voyez comment le Midrash dit le...
Naasa.
Naasa, c'est le verset. Alors, le Midrash l'utilise en disant Kvar Naasa. Il a été déjà. Ça veut dire qu'il y a une dimension de la durée qui permet de culbuter ce problème insoluble. C'est pourquoi l'homme existe dans la durée. Parce que dans l'éternité, l'homme ne peut pas exister. Il faut qu'il ait le temps de résoudre cette contradiction des absolus. Alors, quelle est la différence entre la vision du Midrash et la vision platonicienne? C'est que, dans la vision platonicienne, ce sont les absolus qui sont en guerre. Vérité, comme vous avez dit. Okay? C'est pourquoi le ciel grec est tragique. C'est les absolus qui sont incompatibles. Il n'y a pas d'espoir. Okay? La guerre des dieux. Tandis que la vision juive, c'est l'inverse. Dans le ciel, il y a la paix. On sait shalom et romav. C'est l'homme qui est contradictoire. Vous voyez la différence de vision. Et l'effort est d'unifier cette synthèse débat. Voilà donc comment ce que vous dites est très précis. Mais ça m'étonne d'ailleurs qu'il est mise. Et parce que là-dedans, ça m'étonne pas, il est très grec.
Dans le traité des vertus.
Oui, d'accord, il est très grec. Mais oui. Il faut savoir s'il cite les Grecs ou s'il pense comme ça.
Non, il pense.
Oui. Quelqu'un avait une question.
J'ai appris la question de combat.
Oui, d'accord, écoutez, je vous dirais, la manière dont vous avez dit ça, je ne suis pas très compétent, c'est de la poésie, mais... c'est dit poétiquement, c'est un compliment, mais dans le fond des choses, et effectivement, il s'agit de cela, le monde d'en bas, c'est le monde des contradictions, et comme nous avons vu, en bas, Esh c'est Esh, Maïm c'est Maïm, l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme. Et encore, quand l'homme c'est vraiment un homme et la femme vraiment une femme, ça marche. Mais c'est plus compliqué que ça. Bon. Et vous avez absolument raison. Hein? Oui.
Vous avez
Vous savez que lorsque Moïse a transmis le Sefer Torah, il a demandé à chacune des tribus d'écrire le Sefer Torah. Chacune des tribus avait un Sefer Torah, le même, dans l'écriture. Mais là vous abordez bon, une question importante, mais aussi très délicate. Voilà. Je vais vous dire comment, mais alors vraiment je prends ça sur moi strictement, je n'ai pas l'habitude, mais ici je ne peux pas vous dire que vous trouverez là ou ailleurs, écrit ce que je vais vous dire. En général, je vous cite que ce qui est écrit. Quand je vous dis ça, c'est une opinion personnelle, ne comprenez pas, comme l'a dit les mémoires des Rolato Akula et le reste. Moi, je veux dire, c'est pas une coquetterie, c'est très sérieux. Quand Yamin, et la Torah de Shevet Issachar, Vechenala, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est le même Sefer Torah, c'est le même Ktav. Mais le Mikra s'adresse aux tâches spécifiques de chaque tribu. Je vous ouvre ici une porte extrêmement obscure, hein, devant un tunnel. C'est un problème énorme, explosif. Mais jusqu'à Biat HaMashiach, nous sommes groupés autour du Sefer Torah de la tribu de Lévi, porté par la tribu de Judas. C'est un autre problème, mais avec l'aide de Issachar. Mais en fait, ce sont des midotes différentes. C'est-à-dire, c'est l'option de la tradition pharisienne. Ochlim, Chulin, Betahara. C'est-à-dire, les pharisiens ont décidé que la survie d'Israël dépendait de ce principe absolu que tous les Juifs vont se conduire à la manière des Kohanim, à la manière de ce Bethléem. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire la tradition pharisienne, c'est le Shulchan Aruch d'imitation de la Kedusha des Kohanim. Et il faut mettre dans imitation le sens noble. Hein? C'est-à-dire, c'est le Shulchan Aruch de Shevet Lévi que nous avons. Et lorsque une communauté a à sa tête un Dayan, compétent du point de vue des problèmes de la relation aux personnes humaines, alors il sait très bien ce qu'est la halakha pour chacun de ces juifs. Bien entendu, il y a des niveaux de généralité. Kacher, c'est kacher pour tout le monde. Okay? Mais chaque fois qu'il y a, dans une communauté vivante, une shéla, on pose une question nouvelle ou personnelle, subjective, alors le rabbin répond, pour toi c'est comme ça. Okay? Et vous savez, quand quelqu'un va faire une consultation sur un médecin, et le médecin va lui dire, pour toi c'est comme ça, il va lui demander, explique-moi pourquoi, il va faire 15 ans d'études de médecine, j'explique après. Vous comprenez le problème. Donc c'est pourquoi je disais à la limite que ce phénomène du nivellement des identités est extrêmement dangereux pour la transmission à l'échelle individuelle. Parce que pas n'importe quel individu, à moins qu'on entre dans un temps d'uniformité, pas n'importe quel individu ne peut entrer dans un schéma type. Vous comprenez? Chaque neshama est un génie pour elle-même. Et il y a un aspect de la Torah pour elle. Bien entendu, de Torah kasher, tout ce que je vous dis là, ça n'a rien à voir avec le libéralisme ou la réforme. Rien, strictement rien à voir. C'est même tout le contraire. Je vous dirai un peu de cette manière pour essayer d'expliquer cette forme de l'orthodoxie juive qui s'est cristallisée dans un tel modèle procède de la communauté juive qui vivait dans une culture non juive qui était comme ça. Vous comprenez, je ne veux pas identifier, on a l'habitude de dire avec humour que c'est la branche cadette du judaïsme, ça se passe à la cadette, mais en principe. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ce qu'il y a de discipline de type suisse allemand vient des Suisses allemands et pas des Juifs. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il y a là un cadre qui n'est pas forcément matim, homogène, à d'autres manières d'être Israël. Est-ce que c'est clair? Voilà le principe. C'est un très grand temps de l'histoire d'Israël, le temps des juges. C'est quand cette énorme expérience du temps des juges, qui était vraiment le temps de la société hébraïque idéale, le temps où c'est le juge qui est le chef de l'Église. Le temps des Shoftim est un temps où l'envergure d'Israël était très haut. Et puis, comme ça a échoué, alors la prophétie a dû être renouvelée avec Hoshéa et les grands premiers prophètes. Parce que le peuple avait besoin de nouveau de l'exhortation morale, mettez morale entre guillemets, l'exhortation prophétique. Et vous vous rappelez de la première Mishnah du Pirkei Avot, Moshe kibel Torah Misinai, Umsara Yoshua, Yoshua l'Iskenim. Les Skenim, c'était les Shoftim. Ou Skenim l'Invim. Après le temps des Skenim, il a fallu renouveler la prophétie. Okay? Et alors, il y a une phrase là, pour ce temps-là, dans le livre des juges, qui est extrêmement important. Ish ayasha ve'ena v'yarase. Chacun faisait ce qui était droit à ses yeux. Mais, avec le temps, vos traducteurs vous traduisent ce que bon lui semblait. C'est tout le contraire. Ce qui était droit à ses yeux, mais droit. Vous comprenez? Yasha ve'lostam kapri. Vous voyez le problème? C'est ça la grande différence. Et ça, c'est un grand niveau d'Israël. On lit Israël de cette manière, d'ailleurs. Yashav El. Ce qui mène à Yeshuvun. Ça, c'est le mouvement de jeunesse de la branche cadette. Mais... Bien. Et c'était donc pour répondre à votre question. Malheureusement, nous ne sommes pas encore, abordés à un temps, d'authenticité pareil. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est pourquoi nous sommes obligés d'avoir des règlements collectifs.
La pénurie des choses fait qu'il faut avoir une chose.
Non, pas seulement, l'indiscipline des juges. Vous comprenez, il y a une espèce de tohu-wabohu des identités. Je sais pas, je vais employer un mot de pédagogue un peu vulgaire. Les juifs, par rapport au problème de la communauté, sont vraiment des sales gosses. Et ils réagissent comme des sales gosses. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est vraiment l'indiscipline du 8e de patrouille. Alors donc, on est obligé d'avoir des règlements de discipline communautaire. Mais la véritable relation à la Torah est beaucoup plus heureuse que cela. Vous comprenez ce que je veux dire ? À la limite, personnelle. Et la manière dont telle halakha se pratique dans telle communauté n'est pas forcément celle ou à tel siècle, n'est pas dans le style. Chaque neshama a un shoresh, une mida. Vous comprenez le concept ? Bon, ça aussi c'est un autre principe. Je récapitule donc le principe de la marloquette entre Ravi et Chachamim. En quel temps sommes-nous ? Et puis, dans d'autres sortes de marloquettes, commençons la majorité des juifs. Ils sont comme Ravi Akiva, halakha et Ravi Akiva. Ils sont comme Rabbi Ishmael, halakha et Rabbi Ishmael. Vous voyez, qui on prend comme modèle ? Non pas les juifs, mais, ça c'est le consistoire, mais les Chachamim. Vous pouvez le... Donc. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons peut-être avancer. Et vous avez donc l'importance de cette dialectique qu'il y avait ici. Alors, abordons déjà le paragraphe d'Alain de la page 2. Tanu Rabbanan.
Si vous pouvez encore maintenant, je sais que vous venez de dire, et avec la smicha, avec le temps de frappe, vous m'avez rappelé, il y a l'individualisation, et de l'autre côté, il y a quand même, on peut être mal fait. On dirait instaurer une autorité par en haut.
Oui.
Alors, je pense que.
Dans l'état des... Vous étiez hier que nous avons parlé de ça.
Oui.
Dans l'état des choses, voilà quel est le problème. Bon, quelle que soit la smicha dont quelqu'un dispose, on demande tout simplement qui lui a donné la smicha. Vous comprenez ? C'est tout. Et alors là, on comprend tout de suite. Ça y est, c'est clair. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on aborde tout de suite le problème. Tanu Rabbanan, c'est une baraita. Nos maîtres ont enseigné. Vehayu, Sheloikra le Mafrea. Et ce Vehayu, Sheloikra le Mafrea, reprend donc l'enseignement des Chachamim. C'est clair ? Puisque le Vehayu, selon Rabbi, c'était Vehavayatan Yehu, Bichon HaKodesh. Donc, Vehayu, Sheloikra le Mafrea. Hadvarim al Levavecha. Mais le verset continue en disant Vehayu, Hadvarim Aele al Levavecha. Vehayu, on a compris. Il ne faut pas lire en désordre. Hadvarim al-levavecha, ça veut dire ces paroles seront souveraines sur ta mahashava. Vous vous rappelez de ça ? Littéralement, et ces paroles seront sur ton cœur, ça veut dire kavana. Alors la question de la Gemara est ceci. Yachol tehe kol ha-parasha tzricha kavana. Peut-être que je pourrais dire que toute la parasha demande une kavana. Talmud lomar ha-ele. C'est pourquoi le verset dit ces paroles-là, Akan Sricha Kavana. Jusque-là, il est nécessaire une Kavana. Mikan Vailach, En Sricha Kavana. À partir de là, il n'est plus nécessaire de Kavana. Divrei Rabbi Eliezer. Et ceci, c'est l'enseignement de Rabbi Eliezer. Amarle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a objecté, Arehu Omer, Asher Anochi Metzavecha Ayom. Ces paroles-là, que je t'enseigne aujourd'hui, Allevavecha, sur ton cœur. Mikana Talomen, par là tu apprends, chez Kol la Parasha Kula, Tricha Kavana, que toute la Parasha nécessite la Kavana. Voilà la lecture du texte, nous allons maintenant le décomposer en unité de lecture. Ici nous avons donc une controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Quel est l'objet de cette controverse? Rabbi Eliezer dit ceci: la Kavana qui nous est exigée ne va que sur les versets suivants. Suivez-moi, si vous avez le texte du Sidour. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, ukol nafshecha, ukol neshecha. Ve'ayu hadvarim haele, Hashem Elokim esavecha, yom alevavecha, jusque la Kavana. Pourquoi? Parce que le verset dit, Ve'ayu hadvarim haele, Hashem Elokim esavecha, yom alevavecha. Ce que je viens de dire sera alevavecha, souverain sur ta pensée, au niveau de la conduite de l'intention. Alors Rabbi Eliezer dit, l'intention du verset, c'est qu'il n'est nécessaire de mettre cette kavana pour être yotze que jusque-là. À partir de là, c'est plus nécessaire, on peut lire sans kavana. Alors, quelle est la kavana ici désignée par Rabbi Eliezer? Quelle est la définition de la kavana désignée par Rabbi Eliezer? Après, on verra que Rabbi Akiva réclame que cette kavana-là, il faut donc surtout de la paracha parce qu'il y a Hayom. Vous voyez, c'est clair? Je ne suis pas allé trop vite. Alors, de quelle nature est cette kavana? Non, de quelle nature c'est Kavana? Qu'est-ce que ça veut dire ici, Kavana Talev? Ce que réclame comme Kavana pour être Yotze, Rabbi Eliezer. Après, il ne demande plus la Kavana, mais il faut quand même lire. Donc il ne s'agit plus de la Kavana de lire pour le reste. Il y a une notion supplémentaire de Kavana qui apparaît ici. C'est la Kavana de s'engager. Vous vous rappelez la discussion qu'on a eue sur le nombre des articles de foi? Vous reliez à ça. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? C'est-à-dire la relation de souveraineté qui porte sur l'identité. À partir de là, tout ce qui va être dit concerne le comportement, les actes. Si je suis en ordre avec la loi, il y a un mérite. Si je suis en désordre, il y a un démérite, une faute. Mais je reste dans la communauté. Vous vous rappelez du problème? C'est-à-dire, si je dis que l'exigence de Kavana d'engagement, de souveraineté, qui va d'amlirté reconnaître comme souverain ce que je dis là, et porter sur l'application dans les détails, à chaque détail, ma faute me damnerait, okay, en langage théologique. Mais là, le souci de Rabbi Eliezer, c'est de dire, j'engage le sort de mon identité au niveau des principes. Dans le détail du comportement, c'est faute ou pas faute? C'est bonne action ou mauvaise action. Mais c'est beaucoup moins dangereux que si chaque action m'engageait du point de vue de ma destinée. Elle m'engage, mais par le biais de l'acte, pas par le biais de l'identité. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que si je lis comme Rabbi Akiva, toute la paracha, rappelez-vous du plan qu'il y avait là hier, non seulement je dois prendre sur moi la souveraineté du principe de l'unité des valeurs, du Dieu unique, sur mon âme, sur ma volonté, comme dit Rabbi Eliezer, à Cannes, mais aussi sur mes pensées, sur mes paroles, sur mes actes. Ça veut dire que la première parole qui n'est pas en ordre, je ne suis plus d'Israël. Le premier acte qui n'est pas en ordre, je ne suis plus d'Israël. Ça, c'est l'exigence de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer dira, c'est sûr que c'est ça, mais c'est trop pour l'état des choses. Vous voyez quelle est le sens de cette vérité? Ça y est, c'est clair? Bon. Est-ce que... Je sais pas, il reste encore une troisième page. Alors, vous êtes déjà arrivé en haut de la paragraphe, de la troisième page, on continue. Amar Rabba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan. À ce point, la discussion, Rabba Bar Bar Chana intervient au nom de Rabbi Yochanan et dit Halakha ki Rabbi Akiva. Quel est le point de la discussion jusque-là? Rabbi Eliezer, les trois premiers versets, pas plus. Rabbi Akiva, toute la paracha. À ce point de la discussion, Rabbi Yochanan avait enseigné la Halakha est comme Rabbi Akiva, toute la paracha. Pas les deux autres parachiotes. Mais en tout cas, la première. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire au moins le principe d'engagement au niveau de la pensée, de la parole et de l'acte. Ensuite, les deux autres parachutes font allusion à Ol Mitzvot. Mais là, il s'agit de Ol Malchut Shamaim déjà impliquant Ol Mitzvot. Ça, c'est Rabbi Akiva. on va continuer le paragraphe pour que vous compreniez que la discussion est en réalité beaucoup plus ample. Que certains disent que la halakha est comme Rabbi Akiva, pas contre Rabbi Eliezer qui demandait moins, mais contre un autre enseignement qui demandait beaucoup plus. Donc le sens va dans le sens de Rabbi Eliezer. Est-ce que vous comprenez le problème? Alors nous disons. Ika de matnela, aha. Ça veut dire, d'autres ont enseigné cette même halakha que c'est comme Rabbi Akiva d'une autre manière. Détania. Akore et Shema, celui qui lit le Shema, Tsarich et Kaven et Libo, doit mettre la Kavana du cœur. Vous rappelez la formule ici complète, non pas s'oppose, mais complète à la formule de notre Mishnah qui était beaucoup plus générale. Aya Kore Batora Vigaz Manamikraim Kirenivo Yatsa. Ici nous avons la formule halachique. Akore et Shema, Tsarich et Kaven et Libo. Rabbi Yaha. Mishum Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Acha, au nom de Rabbi Yehuda, avait dit Kivan Shechiven Livo Beperek Rishon, Shuvenot Tsarich. Et s'il met la Kavana du cœur dans la première paracha, dans le premier chapitre, plus, cela n'est pas encore, cela n'est plus nécessaire. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, et on a dit au nom de Rabbi Yochanan, Halacha ki Rabbi Acha, Shehamar Mishum Rabbi Yehuda. Vous voyez, le résultat est le même. Mais le processus de précision des limites de la Kavana est très différent. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, la première allure de la discussion est ceci. Rabbi Eliezer demande moins que la première paracha. Rabbi Akiva demande toute la première paracha. Donc ici, Rabbi Akiva est en Khumra sur Rabbi Eliezer. Mais la Gemara fait rebondir la discussion en disant, nous avons appris la même chose. Que quelqu'un a dit c'était toute la paracha, mais en Kula contre celui qui demande les trois parachutes. Donc en fin de compte, il y a là deux systèmes différents. Soit on est dirigé dans le sens de la Khumra, on tolère moins, mais on voudrait plus. Soit on est dirigé dans le sens de la Kula, c'est-à-dire il faudrait tout, mais on décide beaucoup moins. Alors ça va en fin de compte dans le sens du moins le plus moins. Est-ce que c'est clair? Mais voyez ici quelle est la signification de l'allure de cette marloquette. Quel était le principe engagé ici? C'est très important de le déceler. C'est le fait que, avec le temps, il y a une diminution d'envergure à l'échelle de l'individu. Il y a une dilution de l'envergure. Et par conséquent, la même loi qui se fait absolument stricte au niveau du clan Israël va se faire de plus en plus, non pas tolérante, vous vous rappelez de l'analyse, mais précise par rapport à l'envergure de telle ou telle catégorie de personnes. Quelle est l'importance du problème? Eh bien, il dépasse considérablement le niveau des mérites d'actes. Il est le fait de savoir quelles sont les limites de l'appartenance par identité.
Alors, dans ce cas-là, plus on est strict sur les principes, plus on peut être souple dans l'application.
Très bien. Mais c'est dangereux, hein. C'est difficile à manier, mais c'est très bien.
Exact. Non, c'est le vide, c'est pas moi.
C'est
une difficile
liberté. Oui, c'est difficile à manier, mais c'est clair que seuls les plus grands peuvent autoriser. Et c'est la raison pour laquelle il y a tellement d'interdictions, parce qu'il y a tellement de plus petits, si j'ose dire. Mais non, mais c'est clair, enfin j'ai un peu blagué, mais c'est pas tellement une blague. Il est évident que Koha de Hetera Adif, il faut être très grand pour pouvoir autoriser. Est-ce que c'est clair? Au niveau des c'est-à-dire, il faut savoir de quoi il s'agit.
Mais comment on reconnaît quelqu'un qui est très grand? Est-ce que lui-même, il en a conscience? Et en quelle mesure les autres en ont conscience?
Écoutez, c'est une discussion que nous avons eue soit hier, soit hier. Oui. Je vous ai dit que les Romains nous ont eus.
Donc vous nous dites aussi,
on les a eus à l'échelle historique. En tant que la nation d'Israël existe et celle de Rome est en décompte. Mais de ce point de vue-là, nous sommes encore au stade de... Vous voyez, par exemple, je ne voudrais pas vous en parler trop longuement, mais l'énorme difficulté de l'unification d'autorité rabbinique en Israël, l'énorme difficulté. On en a souvent parlé, peut-être. on est devant quelque chose qui apparaît comme une histoire de... Vous comprenez ? Je pourrais vous en parler longuement et de façon très précise, mais j'aurais à vous dire que mon avis, c'est pas intéressant. Mais il faut prendre conscience, en tout cas objectivement, de l'état des choses. Il y a une crise d'autorité, il n'y a pas de crise. Qui vient après tout que nous sommes dans un temps de rassemblement et vraiment nous nous rassemblons du point de vue d'horizons tellement différents que c'est encore un état de chaos, l'état de rassemblement. Alors, si vous me dites où s'adresser, je ne sais pas comment était votre question, comment diagnostiquer cette autorité, ben je vous dirais un peu comme j'ai dit hier, suivant la porte à laquelle on frappe, on dit qui on est. Vous voyez, je pense que c'est très simple. Je vous donnais un certain nombre de règles générales du point de vue du Franc-Navour. Quand on a posé la question à quelqu'un, à un rabbin, de savoir comment faire, on n'a pas le droit après de demander à quelqu'un d'autre. Vous comprenez ?
Oui.
Mais alors en général, et bon, ça c'est les ruses de la conscience, et les juifs s'arrangent pour poser la question à celui de qui ils savent qu'ils vont entendre la réponse qu'ils voudraient entendre. Vous comprenez le problème. Alors c'est de ça qu'il faut se méfier. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a énormément de cas de bonne foi où on ne sait pas et on est trompé de bonne foi. Enfin, trompé, c'est... Seulement, il y a une autre règle. C'est que, du point de vue de l'enseignement, et du point de vue de la connaissance théorique, disons de la connaissance de la vérité pour la vérité comme on a eu, et du point de vue de halakha le maaseh, eh bien, la relation d'autorité n'a pas forcément le même principe. Du point de vue de la connaissance de la Torah pour la Torah, chacun a son maître. Mais du point de vue de savoir comment il faut faire, l'autorité, c'est le maître de la communauté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Donc le problème est de savoir dans quelle communauté s'insérer. Ça fait rebondir le problème. D'autant plus que la communauté, est-ce qu'elle existe ? Je vais encore avoir un affreux jeu de mots, mais la commune ôtée reste rien. Mais c'est un peu ça. Où il peut. Écoutez, il y a des domaines. Écoutez, il y a des domaines où le. Attendez, une minute. Il y a des domaines où le principe d'autorité est contestable. Okay. Mais il y a des domaines où est le seul principe qui peut fonder l'authenticité. Parce qu'il s'agit de l'autorité de la connaissance. Vous comprenez ?
Il faut faire une distinction entre le principe d'autorité et l'argument d'autorité.
Ah oui, oui, l'argument d'autorité.
Il faut faire attention.
Oui. Vous comprenez ? La question que vous posez est une question extrêmement importante. À partir de quand, je prends le problème au niveau de la société. À partir de quand les juifs ont commencé à mettre en question le principe d'autorité au sein de la communauté juive ? Quand ils ont plus ou moins inconsciemment diagnostiqué que l'autorité n'en était plus, que l'autorité n'était plus une autorité. Alors ils ont commencé à la contester. Mais apprenez bien l'histoire juive traditionnelle et vous verrez à quel point la relation à l'autorité du Talmid Chacham est essentielle. Je vais vous raconter une histoire juive qu'on raconte dans les yeshivot. Qui s'est passé authentiquement d'ailleurs. Je voulais peut-être raconter une année, et qui m'a beaucoup frappé, du point de vue du respect qu'on avait de l'autorité de la connaissance. Et dans une petite ville, un juif n'avait pas pu, et c'était le rêve de sa vie, devenir Talmid Chacham. Il n'avait pas pu pour X raisons. Et puis finalement, il est devenu très riche. Et il avait une fille à marier. Et alors, le moment où il fallait marier cette fille, il est allé voir le Rosh Yeshiva, d'un petit village à côté, où il y avait une grande yeshiva, petit village mais une grande yeshiva, et dit voilà, dans ma jeunesse j'étais étudiant à la yeshiva, mais j'ai pas pu devenir Talmid Chacham, mais je sais qu'elle est Talmid Chacham, j'ai une fille, je veux qu'elle se marie avec un Talmid Chacham, je veux pas la donner à une bête. Alors, choisis-moi un de tes élèves, qui soit vraiment un Talmid Chacham, et je lui donnerai ma fille et mon argent et tout, et il se consacrera à étudier. Et j'aurai des petits-enfants qui seront des petits-enfants de Talmid Chacham. et aussi des petits-enfants de banquiers. Bon, enfin. Et alors, le Rosh Yeshiva a compris l'importance de la demande. Il a dit, voilà, j'envoie déjà 7 ou 8 qui pourraient faire l'affaire. Il dit, voilà, mais à une condition. Et le banquier qui dit, à une condition. C'est qu'il y a une page qui m'a toujours intrigué dans la Gemara. Celui qui m'expliquera cette page, je lui donne ma fille et ma femme. Et alors, le thème de Rosh Yeshiva dit, bon, ils vont se préparer, donne-moi ta page, ils vont se préparer. Et à tour de rôle, dès que chacun sera pris, viendra passer ton examen. Il ne s'agissait pas d'aller voir s'il a été agréé par la Kala. Il fallait pas voir qui s'arrange avec Tosfot. Le premier vient, ça ne marche pas. Non, tu ne m'as pas expliqué. Bon, tant pis, dommage, je retourne à ma Gemara, toi, trouve-toi un autre genre. Vechenala, le septième, il attend le huitième ne vient pas. Il va voir au bout de quelques temps, il va voir le Rosh Yeshiva et dit alors, et ce huitième, je l'attends. Il dit oui, mais il se prépare. Bon, dans un mois, il ne vient pas. Qu'est-ce qu'il y a, il est malade. Dans 2 mois, 3 mois, 4 mois à la fin, il ne vient pas. Il dit, je veux le voir, ton élève. Alors l'élève vient et du coup, il lui dit, tu sais, ta fille, tu te la gardes. Ton argent, tu te la gardes. Mais cette page, tu m'expliques. Alors le banquier a dit, alors c'est à toi, je vais donner et la fille, et l'argent, et la page. C'est joli comme
ah, oui.
C'était effectivement le respect de la connaissance. C'est ça l'autorité. Bien. Et à propos de quoi nous avions parlé de ça? Ah oui, de votre question. De votre question. C'est ça dont il faut se méfier. Je me rappelle une petite conversation qui me revient du temps du Mont Saint-Genève. Quelqu'un qui, vous savez, les néophytes qui commencent de nouveau à pratiquer, à étudier, à croire, etc. Alors, des petites discussions comme ça qui m'avaient frappé. Et entre deux jeunes, plus naïfs et charmants, apprentis du sage, et il disait, ah oui, cette question-là, il ne faut pas que tu la poses au Rabbi Handel, parce qu'il est porté sur la couleur. Je vous explique en français. Ne demande pas à ce rabbin comment il faut faire, parce qu'il a tendance à être tolérant. Va plutôt chez celui-là, tu verras quelle bonne humra il va te donner. C'est-à-dire qu'on a tendance à chercher à qui poser la question parce qu'on se doute que de la réponse qu'on veut entendre. Ça, c'est pas une vraie question. Ça, c'est clair. Alors, je pense qu'il y a là, dans ce problème, ce qu'on appelle « tsiata d'ishmaya ».